Madame Olcott avait imposé aux musiciens d'atténuer leur vacarme, tandis que les danseurs n'ululaient plus, mais continuaient à pirouetter de plus en plus brisés de fatigue. La forme chantait « Gentle love, this hour befriends me ». « C'est toi, je te reconnais », disait engageante Madame Olcott. « Parle, dis-nous où, quoi ?» Et la forme. « Il était nuit, la tête couverte du voile de lin. J'arrive, je trouve un autel de fer, j'y place le rameau mystérieux. Oh, je crus descendre dans un abîme. Des galeries composées de quartiers de pierre noire, mon voyage souterrain. »
c'est faux !» criait Taglier. « Frère, vous connaissez tous ce texte, c'est la très sainte trinosophie. C'est bien moi qui l'ai écrite. N'importe qui peut la lire pour 60 francs !»
Il s'était précipité sur Géofox et le secouait par le bras.
« Arrête, imposteur !» s'écria Madame Olcott. « Tu le tues !»« Et quand cela serait ?» s'écria Aglier en renversant le médium de son fauteuil.
Géofox essaya de se retenir en se rattrapant à sa propre sécrétion, qui, entraînée dans cette chute, se décomposa en bavant vers la terre. Géo s'affaissa dans la rigole visqueuse qu'il continuait à vomir. Ensuite, il se refroidit, sans vie.
« Arrête-toi, fou !» criait Madame Olcott en empoignant Aglier.
Et puis, aux deux autres frères,
« Résistez, mes petits à moi, ils doivent encore parler. Kunrat, Kunrat, dis-lui qui vous êtes, vrai !»
Léo Fox, pour survivre, tentait de réabsorber la chouette. Madame Olcott s'était placée dans son dos et lui serrait les tempes pour le plier à sa superbe. La chouette s'aperçut qu'elle allait disparaître et elle se retourna vers son parturien même.
« Fi, fi diabolo !» sifflait-elle
en cherchant à lui becquer les yeux. Léo Fox émit un gargouillement comme si on lui avait tranché la carotide et il chut à genoux. La chouette disparut dans une boue dégoûtante.
« Fi, fi !» faisait-elle,
ou tomba pour y étouffer le médium qui resta tout englué et immobile. La dame Olcott, furieuse, s'était adressée à Théo qui résistait en brave.
« Parle, Kellet, tu m'entends ?»
Kellet ne parlait plus. Il tendait à se désincorporer du médium qui hurlait à présent comme si on lui avait arraché les entrailles et essayait de récupérer ce qu'il avait produit, en battant des mains dans le vide.
« Kellet, oreille coupée, ne triche pas encore une fois !» criait la dame Olcott.
Mais Kellet, ne réussissant pas à se séparer du médium, tentait de l'étouffer. Il avait pris l'aspect d'un chewing-gum dont le dernier frère Fox essayait en vain de se dépêtrer. Puis, Théo aussi tomba sur ses genoux. Il toussait. Il se confondait peu à peu avec la chose parasite qui le dévorait. Il roula par terre en se démenant comme s'il avait été enveloppé de flammes. Ce qu'avait été Kellet le recouvrit d'abord tel un suaire, puis il mourut en se liquéfiant. Et il le laissa vider sur le sol la moitié de lui-même, la momie d'un enfant embaumé par Salon. En ce même instant, les quatre danseurs s'arrêtèrent à l'unisson. Ils agitèrent les bras en l'air. Durant quelques secondes, ils furent noyés car ils coulaient à pic. Après quoi, ils s'abattirent en glapissant comme des chiots et se couvrant la tête de leurs mains. Pendant ce temps, Aglier était revenu sur le promenoir, épongeant la transpiration de son front avec la pochette qui ornait la poche de sa veste. Il inspira deux fois et porta à sa bouche une pastille blanche, puis il imposa le silence.
« Frère chevalier !» « Vous avez vu à quelle misère cette femme a voulu nous soumettre.
Ressaisissons-nous et revenons à mon projet. Donnez-moi une heure pour conduire le prisonnier de l'autre côté. »
Madame Olcott était hors jeu, penchée sur ses médiums, plongée dans une douleur presque humaine. Mais Pierre, qui avait suivi les événements toujours assis dans la cathèdre, reprit le contrôle de la situation.
« Non, dit-il, je ne vois qu'un seul moyen, mais le sacrifice humain. « À moi le prisonnier, à moi !»
Magnétisé par son énergie, les géants d'Avalon s'étaient emparés de Belbo, qui avait suivi ébahi la scène, et ils l'avaient poussé devant Pierre. Celui-ci, avec l'agilité d'un jongleur, s'était levé, avait mis la cathèdre sur la table et avait tiré l'un et l'autre au centre du cœur. Après quoi, il s'était saisi du fil du pendule au passage, et il avait arrêté la sphère, reculant sous le contre-coup. Ce fut l'espace d'un instant, comme suivant un plan, et peut-être pendant la confusion y avait-il eu un accord. Les géants étaient montés sur ce podium, ils avaient hissé le prisonnier sur la cathèdre, et l'un d'eux avait enroulé autour du cou de Belbo deux fois le fil du pendule, tandis que le second retenait la sphère, l'appuyant ensuite sur le bord de la table. Bramanti s'était précipité devant le gibet, s'enflammant de majesté dans sa simarre écarlate, et il avait psalmodié
« Exorciso igitur, te per pentagrammaton, et in nomine tetragrammaton, per alpha et omega, qui sunt in spiritu azot.
Sadai, Adonai, Jotchava, Ayazerei, Michael, Gabriel, Raphaël, Anaël, Fluat Udor, Per Spiritum, Elohim, Meneat Terra, Per Adam, Yot Kava, Per Samael, Zebaot, et in nomine Elohim, Gibor, Veni Ad Ramelech, Vade Retro, Lilith.
Belbo resta froid sur la cathèdre, la corde au cou. Les géants n'avaient plus besoin de le retenir. S'il avait fait un seul faux mouvement, il serait tombé de cette position instable et la boucle lui aurait serré la gorge.
« Imbécile !» criait Aglié. « Comment le remettrons-nous sur son axe ?»
Il pensait à sauver le pendule. Bramanti avait souri.
« Ne vous inquiétez pas, comte. Nous ne sommes pas ici en train de brasser vos teintures. Lui, c'est le pendule. Comme il a été conçu par eux, lui, il saura où aller. Et de toute façon, pour convaincre une force d'agir, rien de mieux qu'un sacrifice humain !»
Jusqu'à ce moment, Belbo avait tremblé. Je le vis détendre. Je ne dis pas rasséréné, mais regardez le parterre avec curiosité. Je crois qu'en cet instant, face à la prise de bec des deux adversaires, voyant devant lui les corps désarticulés des médiums, sur sa droite et sur sa gauche les derviches qui encore tressautaient en gémissant, les parements des dignitaires en désordre, il avait recouvré son don le plus authentique, le sens du ridicule. À ce moment-là, j'en suis sûr, il a décidé qu'il ne devait plus se laisser effrayer. Il se peut que sa position élevée lui eût donné un sentiment de supériorité, tandis qu'il observait du haut de l'avant-scène cette assemblée de démons perdus dans une vendetta de grands guignols, et au fond, presque dans l'entrée, les avortons désormais désintéressés de l'événement, qui se donnaient des coups de coude et riaient, tels Hannibal Catalamessa et Piobo. Il tourna seulement vers Lorenza un regard anxieux. De nouveau, elle était encadrée, tenue au bras par les géants et agitée de tressaillements rapides. Lorenza avait recouvré sa conscience. Elle pleurait. Je ne sais si Belbo a décidé de ne pas lui offrir le spectacle de sa peur, ou si sa décision n'a pas été plutôt l'unique façon qu'il avait de faire peser son mépris et son autorité sur ce ramas sans nom, mais il se tenait droit, la tête haute, la chemise ouverte sur sa poitrine, les mains liées dans son dos, fièrement, comme un qui n'avait jamais connu la peur. Apaisé par le calme de Belbo, résigné en tout cas à l'interruption des oscillations, toujours impatient de connaître le secret, maintenant parvenu au règlement des comptes avec une vie ou plusieurs, de recherche, résolu à reprendre en main ses partisans, Aglié s'était de nouveau adressé à Jacopo.
« Allons, Belbo, décidez-vous. Vous le voyez, vous vous trouvez dans une situation embarrassante, c'est le moins qu'on puisse dire. Arrêtez donc avec votre comédie. »
Belbo n'avait pas répondu. Il regardait ailleurs comme si par discrétion il voulait éviter d'écouter un dialogue qui l'aurait fortuitement surpris. Aglié avait insisté, conciliant comme s'il parlait à un enfant.
« Je comprends votre ressentiment, et si vous me permettez votre réserve. Je comprends qu'il vous répugne de confier un secret aussi intime et jaloux à une plèbe qui vient de vous offrir un spectacle aussi peu édifiant. Eh bien, votre secret, vous pourrez le confier à moi seul, à l'oreille. » À présent, je vous fais descendre et je sais que vous me direz un mot, un seul mot.
Et Belbo,
plaît-il ?
Alors Aglié avait changé de ton. Pour la première fois dans sa vie, je le voyais impérieux, sacerdotal, excessif. Il parlait comme s'il endossait un des vêtements égyptiens de ses amis. Je sentis que son ton était faux. On eût dit qu'il parodiait ceux à qui il n'avait jamais lésiné son indulgente commisération. Mais en même temps, il parlait très pénétré de son rôle inédit. Pour quelque dessein à lui, puisque ce ne pouvait être par instinct, il était en train d'introduire Belbo dans une scène de mélodrame. S'il joua, il joua bien, car Belbo ne perçut aucun bluff, et il écouta son interlocuteur comme s'il n'attendait rien d'autre de lui.
« Maintenant, tu vas parler !» dit Aglié. « Tu vas parler, et tu ne resteras pas en dehors de ce grand jeu. En te taisant, tu es perdu. En parlant, tu auras part à la victoire. Parce qu'en vérité, je te le dis, cette nuit, toi, moi, et nous tous, sommes en Od, la séphira de la splendeur, de la majesté, de la gloire. Od, qui gouverne la magie cérémonielle et rituelle. Od, le moment où éclot l'éternité. Ce moment, je l'ai rêvé pendant des siècles. Tu parleras, et tu t'uniras aux seuls qui, après ta révélation, pourront s'appeler les seigneurs du monde. Humilie-toi, et tu seras exalté. Tu parleras parce qu'ainsi je commande. Tu parleras parce que je le dis, et mes paroles efficunt quod figurant. »
Et Belbo avait dit, désormais invincible,
« Magaftelanata !»
Aglié, même s'il s'attendait à un refus, pâlit à l'insulte.
« Qu'est-ce qu'il a dit ?»
avait demandé Pierre, hystérique.
« Il ne parle pas !»
avait résumé Aglié. Il avait écarté les bras d'un geste entre capitulation et condescendance, et dit à Bramanti
« Il est à vous !»
Et Pierre chavirait
« Ça suffit, vé, suffit comme ça, hein, le sacrifice humain, le sacrifice humain !»«
Oui, qu'il meure, nous trouverons quand même la réponse !»
s'écriait tout autant chavirée Madame Olcotte, revenue au cœur de la scène, et elle s'était élancée sur Belbeau. Presque dans le même temps, Lorenza s'était secouée, libérée de la poigne des géants et placée devant Belbeau, au pied du gibet, les bras écartés comme pour arrêter une invasion, criant au milieu de ses larmes
« Mais vous êtes tous fous !» « Mais c'est ça qu'on fait ?»
Aglié, qui déjà se retirait, était resté un instant interdit, puis il lui avait couru après pour la retenir. Ensuite, tout s'est passé en une seconde. La Olcotte, Chignon soudain défait, fiel et flamme telle une méduse, lançait ses serres contre Aglié, lui griffant le visage, puis le poussant de côté avec la violence de l'élan qu'elle avait pris dans son bond en avant. Aglié reculait, achoppait dans un pied du brasero, pirouettait sur lui-même comme un derviche et allait donner de la tête contre une machine s'écroulant sur les dalles, la face en sang. Au même instant, Pierre s'était jeté sur Lorenza. Dans son transport, il avait tiré de son fourreau le poignard qui pendait sur sa poitrine. Moi, maintenant, je le voyais de dos. Je ne compris pas tout de suite ce qui était arrivé. Je vis Lorenza glisser au pied de Belbeau, le visage de cire, et Pierre qui brandissait sa lame en hurlant
« Enfin, le sacrifice humain !»
Puis, se tournant vers la nef à gorge déployée,
« Ya skoulou, ya chahatn !»
Tout ensemble, la masse qui remplissait la nef s'était déplacée, et certains tombaient, révulsés, d'autres menaçaient de renverser le fardier de Cugno. J'entendis, du moins je crois, mais je ne peux pas imaginer un détail aussi grotesque, la voix de Garamond qui disait
« Je vous en prie, messieurs, un minimum d'éducation !»
Bramanti, dans un état extatique, s'agenouillait devant le corps de Lorenza en déclamant
« Hasard, hasard !» Qui me saisit à la gorge, qui me cloue au sol, qui poignarde mon cœur. Je suis indigne de franchir le seuil de la maison de Matt.
Peut-être personne ne le voulait, peut-être le sacrifice de Lorenza devait-il suffire, mais les acolytes se poussaient désormais à l'intérieur du cercle magique rendu accessible par l'arrêt du pendule, et quelqu'un, j'aurais juré que c'était Ardenti, fut catapulté par les autres contre la table, qui s'évanouit littéralement sous les pieds de Belbeau, et en vertu du même élan donné à la table disparue, le pendule commençait une oscillation rapide, violente, arrachant sa victime avec lui. La corde s'est étendue sous le poids de la sphère et avait resserré sa boucle. Maintenant, comme un nœud coulant autour du cou de mon pauvre ami projeté en l'air qui pendait le long du fil du pendule, et, envolé soudain vers l'extrémité orientale du cœur, revenait en arrière à présent, déjà sans vie, je l'espère, dans ma direction. La foule, en se piétinant, s'était de nouveau retirée sur les bords pour laisser l'espace au prodige. Le préposé aux oscillations, grisé par la renaissance du pendule, en secondait l'élan, agissant directement sur le corps du pendule. L'axe d'oscillation formait une diagonale de mes yeux à une des verrières, celle à coup sûr avec l'écaillure, par où aurait dû pénétrer d'ici quelques heures le premier rayon de soleil. Je ne voyais donc pas Jacopo osciller face à moi, mais je crois qu'ainsi sont allées les choses, que c'est bien la figure qu'il traçait dans l'espace. Le cou de Belbeau apparaissait comme une seconde sphère insérée le long du segment de fil qui allait de la base à la clé de voûte, et, comment dire, tandis que la sphère de métal se tendait à droite, la tête de Belbeau, l'autre sphère, penchait à gauche et inversement. Pendant un long moment, les deux sphères prirent des directions opposées, si bien que ce qui sabrait l'espace n'était plus une droite, mais une structure triangulaire. Cependant, alors que la tête de Belbeau suivait la traction du fil tendu, son corps, lui, peut-être d'abord dans le dernier spasme, à présent avec la spastique agilité d'une marionnette de bois, traçait d'autres directions dans le vide, indépendamment de la tête, du fil et de la sphère située au-dessus, les bras d'un côté, les jambes de l'autre, et j'eus la sensation que si quelqu'un avait photographié la scène avec la machine de Muybridge, bloquant net sur la plaque sensible chaque moment d'une succession spatiale, enregistrant les deux points extrêmes, où venaient à se trouver la tête à chaque période, les deux points d'arrêt de la sphère, les points du croisement idéal des fils, indépendamment l'un de l'autre, et les points intermédiaires marqués par l'extrémité du plan d'oscillation du tronc et des jambes, Belbo, pendu au pendule, dis-je, aurait dessiné dans le vide l'arbre des séphirotes, résumant dans son moment suprême l'histoire même de tout l'univers, fixant dans son errance aérienne les 10 étapes du souffle exsangue et de la déjection du divin dans le monde. Puis, tandis que l'oscillateur continuait à encourager cette funèbre balançoire, par une atroce combinaison de forces, une migration d'énergie, le corps de Belbo était devenu immobile, et le fil avec la sphère se déplaçait comme un pendule de son corps à la terre seulement, le reste, qui reliait Belbo à la voûte, tombant désormais d'aplomb. Ainsi, Belbo, réchappé de l'erreur du monde et de ses mouvements, était devenu, lui, maintenant, le point de suspension, le pivot fixe, le lieu où se soutient la voûte du monde, et sous ses pieds seulement oscillaient le fil et la sphère, de l'un à l'autre pôle, sans repos, avec la terre qui s'échappait sous eux, montrant toujours un continent nouveau. Et la sphère ne savait pas indiquer, ou jamais ne le saurait, où se trouvait l'ombilique du monde. Alors que la meute des diaboliques, un instant ébahie devant le phénomène, se remettait à crier, je me dis que l'histoire était vraiment finie. Si Od est la séphira de la gloire, Belbo avait eu la gloire. Un seul geste impavide l'avait réconcilié avec l'absolu.